C'est ça quand vous étiez jeune, hein? Oui? Vous m'avez dit nous. Ouais. Donc, nous, c'était régulier parce qu'il y avait 8 enfants, donc tout le monde trouvait injuste que l'autre avait. Mais c'est ancré dans notre cerveau, ça va dès notre naissance. Hein? Au travail, si quelqu'un obtient la promotion à laquelle nous aspirions et nous disons, c'est pas juste. Si quelqu'un obtient une augmentation de salaire et nous pas, nous disons, c'est pas juste. Si quelqu'un obtient un jour de congé et nous pas, nous disons, c'est pas juste. Aujourd'hui, nous avons des lois qui obligent les employeurs à traiter de manière équitable leurs ouvriers. Eh bien, je me réjouis que Dieu ne puisse pas être poursuivi devant les tribunaux parce que les avocats belges auraient beaucoup de travail et auraient toutes sortes de raisons de poursuivre Dieu parce que Dieu n'agit pas toujours de façon équitable. Et je l'ai dit en début du culte, heureusement qu'il n'agit pas toujours de façon équitable. Nous allons le voir à travers ce passage dans Matthieu chapitre 20. On va commencer à lire à partir du verset 1. Et suivant. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Et une pièce d'argent, il faut se rappeler qu'une pièce d'argent représentait le salaire d'une journée à cette époque. Il sortit de nouveau vers la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Et il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez, vous aussi travaillez dans ma vigne, et je vous donnerai un salaire raisonnable. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, puis vers la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures, et fit de même. Enfin, vers la 11e heure, c'est-à-dire vers 17 heures, vers la fin de la journée, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici ?» tout le jour sans rien faire. Il faut dire ici que les ouvriers travaillaient à cette époque 12 heures par jour. Ils lui répondirent, « C'est parce que personne ne nous a engagés. Eh bien, allez, vous aussi travaillez à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son contremaître, « Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés, tu termineras par les premiers. » Ceux de la 11e heure, c'est-à-dire ceux qui avaient été engagés à 17 heures, vinrent et reçut chacun une pièce d'argent, ce qui, encore une fois, je le rappelle, représentait une journée de travail. Les premiers engagés vinrent ensuite, ils pensaient qu'ils recevraient davantage. Mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire de la maison et dirent, « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te cause aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Dieu n'agit pas de façon équitable, mais Dieu est bon. Amen. Amen. Il est important maintenant de situer ce passage dans son contexte. Un homme est propriétaire d'une vigne. Et il a besoin d'un certain nombre d'ouvriers. Alors, tôt le matin, il sort, il s'en va sur la place afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il sort de nouveau à 9 heures du matin, nous dit le texte biblique, et engage d'autres ouvriers. Il sort ensuite à midi, il engage d'autres ouvriers. Il sort de nouveau à 15 heures, il engage d'autres ouvriers. Et finalement, il sort une dernière fois à 17 heures, c'est-à-dire la 11e heure, juste avant le coucher du soleil, et il engage d'autres ouvriers pour travailler dans sa vigne. Le moment de payer arrive et il commence par ceux qui avaient engagé les derniers. C'est ce qu'on a lu tantôt. Il va leur donner à chacun, eh bien, le salaire d'une journée de travail. Alors, ceux qui avaient travaillé toute la journée, voyant que les derniers avaient reçu une pièce d'argent, ils se frottent les mains. Ils s'imaginent le montant qu'ils vont recevoir. Parce que les ouvriers de la 17e heure, de la 11e heure, en fait, hein, à 17 heures, qui ont été engagés à 17 heures, ils ont peut-être travaillé une heure. Et les gars se frottent les mains, quoi. Ils ont travaillé 12 heures. Ils ont travaillé toute la journée. Ils disent, hey, si le maître de la vigne leur donne une pièce d'argent, combien on va recevoir? C'est grandiose, quoi. Ils se frottaient les mains en imaginant le salaire qu'ils allaient recevoir. Mais ils reçurent le même montant de la part du propriétaire. Une émeute a failli éclater, frères et sœurs. Il est écrit au verset 11 qu'ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ils étaient mécontents, se sentant victimes de discrimination. Ils se plaignirent et critiquèrent le propriétaire pour les avoir traités de façon si injuste. Ceux qui murmuraient étaient ceux qui avaient travaillé pendant 12 heures, c'est-à-dire jusqu'à la 11e heure. Ils se plaignaient en disant, Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites sur le même pied que nous qui avons supporté la chaleur et la fatigue. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et c'était le cas. À vue humaine, ce n'était pas juste. Heureusement que les travailleurs ne vivent pas ça aujourd'hui avec les syndicats que nous avons. Tu travailles une heure, payé un euro. T'en travailles 15, t'es payé un euro. T'en travailles 12, t'es payé un euro. Il y avait des blés. Ouais. On se promènerait avec des panneaux dans les rues, hein? Frères et sœurs, ce n'était pas juste, et c'est vrai. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. J'aimerais que nous apprenions 5 grandes vérités ce matin auxquelles nous allons être confrontés tout au long de notre vie. Et si nous ne les retenons pas, nous allons nous fracasser notre nez dans notre progression. Enfin, nous risquons de nous fracasser le nez dans notre progression spirituelle. La première vérité, c'est la suivante. Il est toujours trop tôt pour quitter, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Il est toujours trop tôt pour quitter, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Regardez au verset 6 ici. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, c'est-à-dire à la fin de la journée. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils sont donc venus à la fin de la journée, à la 11e heure. Jésus ne parle pas ici d'une repentance de dernière minute. Il ne parle pas ici de quelqu'un qui a vécu en brûlant la chandelle par les deux bouts et qui critique Dieu pour sa mauvaise condition. Cependant, il faut quand même avouer qu'il arrive que certains se repentent à la dernière minute juste avant de mourir. Et tant et aussi longtemps qu'il reste suffisamment de souffle à quelqu'un pour se repentir, Dieu le sauvera. On a juste à penser au malfaiteur sur la croix. Il a été sauvé à la 11e heure, à la dernière minute. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, il y en a qui ont de la difficulté à pardonner à Dutroux. Hein? Mais on ne peut pas s'imaginer ce que ce malfaiteur-là sur la croix qui a été crucifié par avoir fait dans sa vie. Hein? Il a peut-être fait pire que Dutroux. Hein? Il a peut-être vendu des femmes hein, en esclavage. Il a peut-être déporté des enfants, séparé des enfants de ses parents. C'était un criminel endurci, ce bonhomme-là. Hein? Ouais. Et quand il se tourne vers Jésus et qu'il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. » Jésus, il lui dit pas « Écoute, tu n'as pas quelque chose à me dire avant? Pourquoi je devrais te pardonner? » Frères et sœurs, la voix de quelqu'un qui se repent, ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. C'est le plus difficile à faire, se repentir de nos péchés. Et ce malfaiteur, il a compris sur la croix. Et moi, je pense que pour qu'il puisse dire à son partenaire criminel, de lui dire, écoute, ne crains-tu pas Dieu? Je pense que c'est quelqu'un qui a probablement été élevé dans une famille chrétienne à l'époque, une famille juive pratiquante. Et puis, comme nos enfants ont été élevés dans une église, dans un milieu chrétien, rendu un certain âge, il a quitté sa famille pour suivre des mauvaises influences et se retrouver à mener une vie de bandit, une vie de malfaiteur. Mais, frères et sœurs, jusqu'à la fin, la parole nous dit, jusqu'à la fin, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein? Et l'Ecclésiaste le dit aussi. Mais cet homme, à la dernière minute, il se tourne et réalise ce qu'il a fait. Il réalise qu'il y a quelqu'un à côté de lui, c'est le seul qui peut le sauver. Et il se tourne vers lui, le Seigneur Jésus, lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » On a l'exemple de quelqu'un qui a été sauvé à la dernière minute, à la 11e heure. Il ne faut pas rejeter délibérément par contre Jésus en disant « Je pourrais toujours accepter Jésus à la dernière minute » parce qu'il n'y a rien qui indique, frères et sœurs, que vous allez vous rendre jusqu'à la 11e heure. On peut dormir. Et pendant notre sommeil, on peut être emporté. On ne s'est pas rendu jusqu'à la 11e heure. Et on a comparé devant Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et qu'il n'est jamais trop tôt pour quitter. Ces ouvriers qui ont été appelés à la 11e heure se sont rendus dans la vigne dès qu'ils ont été appelés. Et qu'est-ce que Jésus enseigne? Encore une fois ici, il est préférable de commencer à se mettre au service du maître de la maison toute la journée. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Je pense que c'est un message qui va vous encourager ce matin. S'il y en a parmi vous qui se disent en eux-mêmes, « J'ai raté ma vie, j'avance en âge, j'ai 67 ans, 80, 90 ans. C'est la 11e heure pour moi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu vous appelle aujourd'hui à travailler dans sa vigne. » Est-ce que vous êtes en main à ça? George Muller est appelé à évangéliser dans le monde à l'âge de 67 ans. Il n'y a pas de vieux dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de cas désespéré dans le royaume de Dieu. Chers amis, il est trop tôt pour quitter, mais il n'est jamais trop tard pour commencer, peu importe l'âge que vous avez. Vous êtes resté pendant toute votre vie chrétienne, assis sur votre chaise. Le maître de la vigne vous appelle ce matin à travailler dans sa vigne. Le maître, ce n'est pas réservé à quelques-uns, à quelques élites du royaume de Dieu. Le maître appelle quiconque le veut à venir travailler dans sa vigne. Et il va bénir. Une deuxième vérité qu'il est bon de retenir, c'est que si vous voulez négocier avec Dieu, vous serez toujours perdant. Si vous voulez négocier avec Dieu, vous serez toujours perdant. Regardez au verset 2. Il convient avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour. Et il les envoya travailler dans sa vigne. Frères et sœurs, si vous lisez bien le texte biblique ici, cela signifie que ce groupe d'ouvriers, celui de la première heure, a négocié un prix et a conclu un accord avec le maître de la vigne. Avec le maître de la maison, le maître de la vigne. Ils étaient liés par ce contrat avec le maître de la maison. On va aller travailler, mais pas à n'importe quel prix. Je peux les entendre dire, « Combien êtes-vous prêts à nous donner pour une journée de travail? » Et le maître de la maison doit leur répondre, « Eh bien, je vais vous donner une pièce d'argent. » Ouais, imaginons qu'un travailleur était payé 15 euros de l'heure à ce moment-là. Cela signifie que le maître de la maison leur offrait 180 euros pour une journée de travail. Ils lui disent, « Tu ne pourrais pas nous offrir un peu plus? » Il leur répond, « Non, je vous paierai ce montant, c'est suffisant. Une pièce d'argent pour la journée. » Finalement, ils vont accepter l'offre du propriétaire de la vigne. Ils avaient conclu un marché et ils sont liés par ce marché. Ce n'est pas le propriétaire qui négocie avec eux, c'est eux qui négocient avec le propriétaire. Ils ont commencé un peu plus tôt à travailler dans la vigne et il n'y a rien de mal à cela. Plus tôt vous êtes appelés à aller travailler dans la vigne, et mieux c'est pour vous. Amen. Spirituellement. Maintenant, faisons une petite application spirituelle. Moi, j'ai été appelé à entrer dans la vigne du Seigneur à l'âge de 33 ans. J'aurais préféré y entrer dès ma plus tendre enfance. Si c'est votre cas ce matin, louez le Seigneur de vous avoir protégé de commettre de nombreux péchés. Louez le Seigneur de vous avoir protégé. Louez le Seigneur, pardon, de ne jamais avoir goûté à l'alcool de manière démesurée. Louez-le de ne jamais avoir été esclave de la drogue ou de la cigarette. Rendez grâce à Dieu de l'avoir rencontré très tôt dans votre jeunesse et d'être entré dans sa vigne. Vous ne pouvez pas savoir comment je regrette d'être entré dans la vigne du Seigneur seulement à l'âge de 33 ans. Combien de folies, de bêtises, de sottises j'aurais évité. Combien de mauvaises expériences qui me marquent encore aujourd'hui je n'aurais pas vécues. Maintenant, ça m'aide dans le ministère, mais j'aurais préféré être épargné de les vivre, ces choses. Nos jeunes, ils reçoivent la parole de Dieu dès leur plus tendre enfance. Et quand ils arrivent à l'adolescence, même s'il y a des avertissements de la part de Dieu qui connaît toutes choses, ils veulent aller tester dans le monde si c'est vrai ce que la Bible dit, avec toutes ses conséquences. La plupart des jeunes qui nous ont quittés ici, à l'adolescence, c'est pour aller tester si ce que la Bible dit, c'est vrai, et ils vont dans le monde. Et le monde, c'est un requin. Le monde, c'est un chien enragé qui ne cherche qu'à bouffer nos enfants. Et nos enfants qui n'ont jamais goûté aux choses du monde, eh bien, ce sont des brebis qui s'en vont vers des loups, sont sans défense. Vous avez des beaux parleurs, des beaux chanteurs qui vont aller les chercher, ils vont se faire dévorer, et qui vont vivre des conséquences, qui risquent d'avoir des conséquences désastreuses dans leur vie. Frères et sœurs, mieux vaut commencer tôt dans la vigne du Seigneur, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Si Dieu vous a appelé à entrer dans sa vigne un peu plus tard, remerciez-le de vous avoir pardonné vos nombreux péchés. Chers amis, rappelez-vous que si vous négociez avec Dieu, vous serez toujours perdant. Ces premiers ouvriers avaient négocié avec Dieu. Ils voulaient commencer tôt et il n'y a rien de mal à cela. Mais ils avaient essayé de faire en sorte que cela devienne une bonne affaire pour eux. Quant aux ouvriers qui commençaient plus tard, ils ont simplement fait confiance au maître de la maison. Regardez au verset 4 et 5. Il leur dit, « Allez aussi dans ma vigne et écoutez ce qu'il dit par la suite, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils n'ont signé aucun contrat. Et dans une autre version, c'est marqué, « Et je vous donnerai ce qui est juste. Je suis capable d'évaluer ce que vous venez. Et vous ne serez pas déçus, dit le Seigneur, si vous me faites confiance. Mais si vous voulez commencer à négocier avec moi, vous allez être perdant. Parce que trop souvent, vous vous sous-évaluez ou vous vous surévaluez. » Ils n'ont signé aucun contrat, ils ont fait confiance à la parole, à la parole du maître de la maison qui leur a dit « Faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. » Et ils allèrent et sortirent de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure. Il fit de même avec les ouvriers qui l'engagèrent. Regardons verset 7 maintenant. « Et ceux qui étaient sortis vers la onzième heure lui répondirent « Personne ne nous a loués. Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. » Ils y allèrent en ayant l'assurance, que s'ils travaillaient bien, le maître de la maison les traiterait correctement. Nous ne demandons pas de signer un contrat, nous voulons juste entrer dans la vigne et faire ce que le maître de la maison nous a demandé de faire. Ce que le Seigneur Jésus veut faire ressortir ici, c'est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui le sert avec un cœur légaliste et quelqu'un qui le sert avec un cœur rempli d'amour. Selon moi, c'est ce à quoi le chapitre 19, juste le chapitre avant, c'est ce à quoi le chapitre 19 nous préparait. Au verset 27, 19-27, Pierre, qui était sur le point de glisser dans le légalisme, pose la question suivante à Jésus. « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Seigneur, on a tout quitté, nos familles, notre travail. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? » Tu vas avoir ta récompense tout de suite, Pierre. Tu vas la perdre en haut, Pierre. Tu vas être perdant, Pierre, si tu veux négocier avec moi, là. Tu ne sais pas ce qui t'attend en haut. C'est démesuré par rapport à ce que tu vas avoir tout de suite, Pierre. Fais-moi confiance, Pierre. Revendique rien. Fais-moi confiance. Je suis juste. Je suis bon, Pierre. Fais-moi confiance. Pierre, il avait encore cet esprit légaliste en lui. Il était en train de dire, Seigneur, si je veux faire un marché avec toi, nous te suivons depuis un certain temps, mais nous voulons savoir ce que ça va nous rapporter. Frères et sœurs, le légalisme est toujours en train de faire valoir ses droits. Je veux négocier avec Dieu. Tu veux-tu t'occuper de tel ministère? Dieu t'appelle à ce ministère. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Pourquoi pas tel ministère? Sous-entendant, ça va me rapporter beaucoup plus aux yeux des hommes. Mais plus ça vous rapporte, plus vous avez le regard. Ce qui est important, c'est plutôt le regard de Dieu, parce que c'est à Dieu qu'on en rend des comptes, là où il nous appelle, frères et sœurs. La raison qui le pousse à servir, ce n'est pas la grâce. La raison qui pousse Pierre à servir, c'est un dû. Je travaille, je m'attends à recevoir quelque chose. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Il veut savoir ce que cela va lui rapporter de faire telle ou telle chose, Pierre. Le problème avec le légalisme, frères et sœurs, c'est pas qu'il ne reçoit pas ce qu'il a négocié. Le problème avec le légalisme, c'est qu'il reçoit exactement ce qu'il a négocié, jamais plus. Et finalement, il s'aperçoit qu'il a sous-évalué son travail. Il a sous-évalué finalement la somme qu'on aurait dû lui donner. Il n'est jamais satisfait. Et quand il regarde quelqu'un d'autre qui reçoit un peu plus de lui, il est jaloux. Et il murmure, comme ses ouvriers de la première heure. Jésus a dit, « Ceux qui prient pour être vus des hommes reçoivent leur récompense, et ceux qui donnent pour être vus des hommes reçoivent leur récompense. » Alors, vous savez comment les pharisiens fonctionnaient, hein? On en a déjà parlé ici. Hein? Les pharisiens, là, ils n'allaient pas dans le tronc de l'Église pour déposer un billet. Un billet, ça ne fait pas de bruit. Hein? Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de billets, je suis pasteur. Mais si, je ne peux pas vous sortir un billet. Mais ça ne fait pas tellement de bruit. Hein? Les pharisiens, là, c'était la fanfare qui était devant eux. Hein? Avec des gens qui traînaient des poches d'argent. Hein? Mais tout en pièces. Il fallait que la ville entende ce qu'il donnait à son Seigneur. Hein? Et là, on déversait. Comme au casino. Hein? Le Seigneur, il dit, tu as déjà eu ta récompense. Pensez à la dame qui a donné sa petite pièce. La seule qu'elle avait. Connaissant le cœur de Dieu, je suis convaincu que quand elle est retournée chez elle, elle était doublement gagnante. Dieu ne laisse pas crever de faim ses enfants, parce qu'à ce moment-là, ça ne répond pas à une de ses promesses. En toute chose, Dieu pourvoit nos besoins. Et le pharisien, eh bien, le Seigneur dit, si tu donnes pour être vu des hommes, tu as reçu la récompense. Ces gens de la première heure, ils ont conclu un accord, ils ont reçu en fonction de cet accord. Voici comment Dieu fonctionne. Dieu accorde le meilleur à tous ceux qui lui laissent le choix. Mais si vous négociez avec Dieu, vous serez toujours perdant. Ceux qui ont négocié sont sortis les grands perdants dans cette histoire. Regardez au verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers. Les ouvriers ici n'ont pas reçu le même montant pour les heures pour lesquelles ils ont travaillé, parce que ce ne sont pas les heures que vous travaillez, frères et sœurs, qui intéressent Dieu. C'est la disposition de votre cœur. Et on va amener un exemple à la fin, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a des gens qui peuvent travailler comme des cinglés pour le Seigneur, mais leur cœur n'appartient pas à Dieu, c'est pour être bien vu des hommes et non pas pour être bien vu de Dieu. Et Dieu dit, tu as déjà ta récompense. Dieu veut que vous le serviez, que vous lui fassiez confiance, le cœur libre de toute contrainte, libre de vous donner, libre de donner, et ce avec joie en disant, « Ô Seigneur, peu importe ce que tu fais, je sais que tu es bon, Seigneur. » Les pharisiens étaient légalistes, ils essayaient de négocier avec Dieu et avec leurs semblables, et ce, dans tous les domaines de leur vie. Tournez dans Matthieu chapitre 23, verset 23, pour ceux qui ont leur Bible. Où Jésus s'adresse aux pharisiens ici. Il leur dit, « malheur à vous, maître de la loi et pharisien hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. » Jésus parle du cœur. Les pharisiens vont par les apparences. Vous donnez ce que les gens voient, mais votre cœur ne m'appartient pas. C'est pourquoi là, ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, dit Jésus. Frères et sœurs, les pharisiens étaient tellement prudents que lorsqu'ils donnaient la dîme sur la menthe, ils le faisaient ainsi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça m'appartient. 10, ça c'est pour Dieu.
Vous pensez que je rigole là? Mais je suis sérieux. Ils payaient des ouvriers pour trier la dîme. Ils étaient méticuleux. Ils étaient tellement méticuleux que finalement, ils faisaient exactement ce que la loi leur demandait. On pourrait penser que Dieu les aurait félicités pour le soin qu'ils prenaient de répondre aux exigences de la loi. Mais Jésus va leur dire, « Malheur à vous, bande de légalistes, parce que vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la miséricorde et la fidélité. Vous donnez pour être bien vu des hommes, mais votre cœur ne m'appartient pas. Et c'est ce que Dieu veut, votre cœur. Et ce matin, est-ce que votre cœur appartient entièrement à Dieu? Est-ce que vous faites des choses pour plaire aux hommes ou si vous faites des choses pour plaire à Dieu, frères et sœurs, ce matin? C'est une bonne question qu'on peut se poser sans esprit de jugement. On est ici, de toute façon, pas juste pour entendre un homme parler, on est ici aussi pour se poser des questions. Dieu, par son Saint-Esprit, nous amène à se poser des questions. Et si on n'est pas capable de répondre positivement à cette question, bien, on se remet sur les rails. C'est ce que Dieu veut. Amen. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose. C'est bien de mettre de l'argent de côté. Mais si vous mettez de l'argent de côté afin que cela vous rapporte, vous manifestez un manque flagrant de confiance en Dieu. Vous n'épargnez pas parce que cela vous rapporte, mais pour donner davantage à Dieu qui fera en sorte de multiplier par 2, par 10 et par 100 ce qu'il vous aura donné pour l'avancement de son royaume. Vous donnez librement et avec joie parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Faites-vous des choses pour recevoir des remerciements ou des éloges de la part des gens ou parce que vous savez que votre Père céleste vous voit et qu'il se réjouit de ce que vous faites. Parce que c'est ce que Jésus aurait fait s'il avait été à votre place. Les gens disent, donnez aux malheureux, donnez aux pauvres. Jésus dit, donnez tant et aussi longtemps aux malheureux et aux pauvres. Lorsque vous donnez, le faites-le librement et joyeusement. Troisième vérité qui est bon de retenir. Il est toujours plus sage de laisser Dieu tenir les livres. Toujours plus sage de laisser Dieu tenir les livres. Frères et sœurs, Pierre comptabilisait ce qu'il faisait. Il tenait les livres. Il avait les yeux fixés sur l'horloge. Il se disait, excusez-moi. J'ai déjà allé prêcher dans une église, pourtant je n'étais pas long cette fois-là. Et il y avait un gars,
c'est fatigant. Quand il est dans le dernier temps, ça va, hein? Mais quand il est dans le premier, et tu prêches, puis il regarde dans l'autre. Ça me stresse, hein? Et t'as compris qu'il ne cherche pas son frère ou sa soeur, hein? Et tu commences et il y a déjà hâte que ça finisse, quoi.
Frères et sœurs, cette personne, elle est venue à l'Église pour faire acte de présence, mais son cœur n'y est pas, frères et sœurs. Pierre comptabilisait ce qu'il faisait, il tenait les livres, il avait les yeux fixés sur l'horloge du temps. Il se disait, nous avons fait tellement de choses incroyables pour Dieu, qu'est-ce que nous allons recevoir comme salaire pour tout cela? Le légaliste a toujours les yeux fixés sur l'horloge. Il sait le nombre d'heures qu'il a travaillé. Il connaît exactement les sacrifices qu'il a fait pour en arriver là où il est. Mais il n'a ni la vigne, ni le maître de la maison à cœur. Il n'en a rien à cirer de la vigne du Seigneur. Il n'en a rien à cirer de la vigne du maître. Et encore moins, il n'en a rien à cirer du maître de la vigne. Tout ce qui lui tient à cœur, pardon, c'est son bien-être parce qu'il est centré sur lui-même. C'est son bien-être. Le problème, frères et sœurs, quand on est centré sur nous-mêmes, on ne voit pas les problèmes des autres. Heureusement qu'il est venu, non pas en se regardant le nombril, mais il est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus. Heureusement que Jésus n'était pas centré sur lui-même, nous serions des cas désespérés aujourd'hui. Jésus était centré sur les autres. Il a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour être servi. » Le pharisien, sa position l'amenait à penser qu'il était là pour être servi et non pour servir. Lorsque j'étais jeune, j'ai travaillé dans un snack bar dont le propriétaire, pour un propriétaire dont on vendait des hot dogs, des frites, des hamburgers, des fish and chips. Bon, je ne vous donnerai pas la liste du menu, mais en tout cas, on servait un petit peu comme des friteries, mais à la style à l'américaine. Et le restaurant fermait à 21 heures. Et je devais balayer le plancher, j'avais 15 ans, je devais balayer le plancher, donc j'avais gagné 50 cents de dollars. C'est bien, non? Trois films pour 25 cents à l'époque. C'est pas méchant, hein, au cinéma. Alors, le restaurant fermait à 21 heures et je devais balayer le plancher avant de fermer. Et là, je surveillais l'horloge du restaurant. Hein? 20h58. 20h59. Et là, j'étais déjà 59, hein? Et un jour, alors que j'étais peut-être à un mètre de la porte pour verrouiller la porte, il y a une voiture qui arrête juste en avant du snack bar. Hein? Et là, j'ai juste le temps de verrouiller, et là, les gens, ça cogne à la porte. Hein? Ils veulent avoir des hot dogs, des hamburgers et tout ça. Hein? Et j'ai regardé, j'ai dit, écoutez, désolé, mais on est fermé. Et en me retournant, je me suis aperçu que le patron était juste derrière moi, debout, comme ça. Il m'a dit, écoute bien, fiston, je suis propriétaire de ce snack bar depuis 30 ans, et c'est la première fois que nous refusons un client. Même s'il arrive à la dernière minute. J'étais pas gros dans mes pantalons. On dit ça ici, j'étais pas gros dans mes pantalons, oui. Mais ça veut tout vous dire, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait que je pensais autrement que le propriétaire de ce restaurant? J'étais un légaliste. J'avais les yeux fixés sur l'horloge. Je ne me souciais absolument pas de la vigne du propriétaire. J'en avais rien à cirer qu'il fasse faillite ou pas. J'en avais rien à cirer qu'il perde un client. C'est peut-être dur pour un Belge de comprendre ça, hein? Parce qu'ici, ça arrive que tu vas dans une boutique à 6h moins 10, puis elle est déjà fermée alors qu'elle devrait fermer à 6h. Hein? Mais au Québec, aux États-Unis, au Canada, si la boutique dit qu'elle ferme à 21h, que vous arrivez à 21h moins 1 et qu'elle est fermée, toute la ville va le savoir. Vous jouez presque votre avenir là-dessus. Hein? Si vous êtes ouvert de 8 à 8, il faut rester ouvert. Vous ouvrez à 8 heures le matin, pas à 8h20 avec un café, en arrivant à un café en retard. C'est 8 heures et vous fermez à 8 heures. Sinon, ça ne prend pas de temps que vous allez fermer, ça fait le tour de la ville. Ici, ça arrive que, bon, je vais vous parler des commerces belges, mais ça arrive que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'au Canada et aux États-Unis. Frères et sœurs, si vous voulez obtenir beaucoup plus, laissez Dieu tenir les livres. Permettez-moi de vous dire ce qui risque de vous arriver si c'est vous qui tenez les livres. Vous risquez à l'occasion de vous payer un salaire un peu plus élevé que celui auquel vous auriez droit. Il arrive parfois que nous pensons avoir fait de grandes choses et ce n'est pas nécessairement le cas. Un prédicateur qui un jour s'adressa à des pasteurs dans une conférence leur dit ceci, « Vous qui prêchez, vous parlez de toutes ces âmes que Dieu a sauvées le dimanche matin dans vos églises. Vous pourriez rapidement venir à la conclusion. Je vais ouvrir mon micro. Vous pourriez rapidement venir à la conclusion que c'est grâce à votre prédication qu'ils se sont donnés à Jésus. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens ont pu être en contact dans le passé avec d'autres chrétiens qui leur ont parlé de Jésus. Et vous vous dites, il a été touché grâce à ma prédication. Il peut arriver, frères et sœurs, que parfois vous preniez sur vous le crédit pour quelque chose que vous ne méritez pas. Et à d'autres moments, il peut arriver que vous ne réalisiez même pas jusqu'à quel point Dieu vous a utilisé pour se glorifier à travers vous. On peut amener la plus belle des prédications. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit. Moi, quand je vois des panneaux où c'est marqué « conférence, prédicateur de renommée internationale », moi, ça me met mal à l'aise, ça. Dieu est de renommée internationale. Sa parole, elle est de renommée internationale. Le Saint-Esprit est un ministère international. Mais quand on a prêché, on peut simplement rendre grâce à Dieu parce qu'on est des serviteurs inutiles. Inutiles que Dieu a travaillé pour faire progresser sa vigne. Amen. Tournez maintenant avec moi dans Matthieu chapitre 25, verset 35 et suivant. Jésus parle de ceux que vous avez, qui vont être récompensés lorsqu'il reviendra. Matthieu 25, verset 35 et suivant. Pendant que vous cherchez, je vais couper une bûche. Ernest, il prend soin de son pasteur, mais il prend trop soin de son pasteur. Jésus parle de ceux qui vont être récompensés lorsqu'il reviendra. Il dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Frères et sœurs, on ne sait pas exactement ce qui nous attend dans le nouveau monde que Dieu va créer, mais on ne sera jamais déçus. Amen. Gardons nos yeux là-dessus parce que la terre est en train de dépérir. La terre, elle est à bout de souffle. Mais Dieu est en train de nous préparer quelque chose de merveilleux. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voici des gens qui ont servi le Seigneur. Ils ont fait du bien autour d'eux pendant de nombreuses années, sans pour autant noter ce qu'ils ont fait dans leur livre. Puis ils disent au Seigneur, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Frères et sœurs, si nous devions nous payer nous-mêmes et si nous inscrivions dans des livres tout ce que nous faisons, nous pourrions être tentés parfois, je le répète, je l'ai dit tantôt, de nous sous-payer, de nous surpayer. Il peut arriver que nous ayons accompli quelque chose d'insignifiant. Mais si cela a été fait avec amour et sans que nous attendions quoi que ce soit en retour, on peut s'attendre à une récompense là-haut dans le ciel. On peut s'attendre à une bénédiction de la part de Dieu. Parfois, nous n'écrivons pas dans notre livre les choses que nous faisons et Dieu n'inscrit pas toujours dans le livre les choses que nous pensons avoir faites pour lui. Mais il est toujours plus sage de laisser Dieu tenir les livres. Et frères et sœurs, peu importe ce que vous faites dans le privé, peu importe ce que vous faites du lundi au samedi, sans que quiconque vous voit, sinon Dieu. Il y a des choses que vous faites qui peuvent vous paraître insignifiantes. Et Dieu, dans son livre, dans le ciel, il note. Dossier Jacques Hudon, dossier Intel, il note. Que vous ne noteriez même pas dans votre propre livre. Mais Dieu note. Et quand vous arriverez là-bas, je tiens à vous rappeler dans l'Apocalypse, hein, quand on rentre au ciel, il est écrit que quand les justes entrent au ciel, leurs œuvres les suivent. Hein.
leurs œuvres les suivent. Vous n'entrez pas tout seul au ciel, hein? Une quatrième vérité qu'il est bon de retenir, ne cherchez pas à être toujours traité de façon équitable, aspirez à goûter à la bonté de Dieu. Si les héros de la foi avaient aspiré à être traités de façon équitable, ils auraient été découragés, ils auraient tout lâché. Ils aspiraient à goûter à la bonté de Dieu, ils ont goûté à la bonté de Dieu. Le psalmiste dit « Goûtez, voyez comment le Seigneur est bon, malgré tout ce qu'il a vécu, poursuivi presque une grande partie de sa vie. Pensez à Joseph, pensez à Moïse, pensez à tous ces héros de la foi dans l'Ancien Testament. » Ils ont goûté à la bonté de Dieu, même s'ils n'ont pas été traités de façon équitable. Moïse, tout le peuple était déjà rebellé contre lui, à quelques temps seulement après être sorti de l'Égypte. Et Dieu voulait détruire ce peuple et en revoir et en installer un autre. Et Moïse a intercédé. Et il a fait appel à la bonté de Dieu. Ne les traite pas selon ta justice, Seigneur. Qu'est-ce que les gens du monde vont penser? Ils vont penser que tu les as fait sortir uniquement pour les faire détruire et t'en débarrasser. Seigneur, je fais appel à ta bonté. Ça, c'est un leader, hein? Ça fait des semaines qu'ils font suer. Et puis, ils doivent dire, Seigneur, ça, c'est une bonne idée. Vas-y, Seigneur, donne-moi un autre groupe, parce que ça ne marche pas avec celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède devant le trône de la grâce de Dieu. Ça, c'est un leader qui a un cœur comme le Seigneur. Un cœur selon le cœur de Dieu. Ouais, il intercède. Seigneur, je fais appel à ta bonté, à ta miséricorde, à ta pitié, Seigneur. Et heureusement que Dieu est bon envers nous. Heureusement que Dieu est miséricordieux envers nous. Heureusement que Dieu a pitié de nous et qu'il ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Amen. Amen. Regardez ce qui est écrit au verset 14 et 15. Le maître de la maison dit, « Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien tout ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Le principe de l'équité s'appuie sur le fait que je m'attends à recevoir plus si je fais davantage que l'autre et que je veux la part qui me revient si j'ai fait plus que les autres. Mais Dieu ne traite pas de façon équitable. Écoutez, Dieu ne fonctionne pas sur le critère de l'équité, sinon ce que je mérite de recevoir, frères et sœurs. Si Dieu devait être équitable envers chacun de nous, ce que nous méritons tous, c'est la condamnation. Ce que nous méritons tous, c'est d'être privés de sa grâce. C'est le juste châtiment que je mérite pour mes péchés, que j'ai commis plus ou moins que d'autres. Dieu est juste et miséricordieux, mais la miséricorde de Dieu ne surplantera jamais sa justice. Pourquoi? Voilà pourquoi, si nous voulons goûter à la miséricorde de Dieu, nous devons nous repentir et nous convertir afin de voir nos péchés être effacés. Actes chapitre 3, verset 19. Il disait à l'ouvrier, « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? » Et il a raison, Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Dieu n'est pas lié par un contrat de travail, c'est une grâce qui nous fait de travailler dans sa vigne. Amen. La justice, c'est Dieu qui nous donne ce que nous méritons. Le pardon, c'est Dieu qui nous accorde ce que nous ne méritons pas. C'est ce que nous appelons la grâce. Et je suis reconnaissant d'avoir pu bénéficier de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Il y a maintenant 33 ans. Et Dieu a fait grâce à ses ouvriers qui sont allés travailler dans la vigne à la 11e heure. Si vous servez Dieu pour être traité d'égal à égal, vous allez être bouleversé. Si quelqu'un reçoit plus que vous, vous allez être contrarié. Ne demandez jamais à Dieu qu'il vous fasse justice, parce que vous risquez de vous trouver dans le pétrin. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Demandez à Dieu plutôt de vous accorder sa grâce, dans laquelle nous retrouvons sa bonté et son pardon. Amen. Cinquièmement et dernier point, ce n'est pas parce que les autres reçoivent plus que vous que cela signifie que Dieu vous aime moins. Ce n'est pas parce que plusieurs reçoivent plus que vous que cela signifie que Dieu vous aime moins. Avez-vous la conviction ce matin dans votre cœur que Dieu vous nous aime tous d'un amour égal? Amen. Ce n'est pas parce que Dieu a béni ceux qui sont arrivés à la 11e heure que cela signifie que ceux qui sont arrivés à la première heure ont été traités injustement. Ou que Dieu les aimait moins. Lisons les versets 14 et 15. « Prends ce qui te revient, va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Excusez-moi, j'ai encore des séquelles de ma semaine de ski. Lorsque des gens servent dans le but d'être récompensés, cela ne prend pas tellement de temps avant qu'on les entende se plaindre, qu'on ne les récompense pas à leur juste valeur. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue dans Luc chapitre 15? On est dans Luc chapitre 15. On va terminer avec ça. Luc chapitre 15. Excusez, je vais enlever mon veston avec votre permission. À partir du verset 12, le texte nous dit qu'un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, bon, je ne suis pas le texte intégralement, j'essaie de raccourcir. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre, et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Se retrouvant dans une situation misérable, il reconnut le mal qu'il avait fait et il retourna auprès de son père. Frères et sœurs, c'est une très belle histoire, ça. Et ça nous montre jusqu'à quel point cet enfant-là n'a pas été traité comme le méritait. Moi, je ne sais pas ce que je ferais, je ne sais pas ce que vous feriez, c'est avant de mourir. Vous n'êtes pas encore mort et un de vos enfants vient vous trouver et dit « Écoute, moi, je ne suis pas patient, papa, dans ma vie. Hein. Tu sais que ce n'est pas ma qualité la plus flagrante, la patience. Je ne sais pas à quel âge que tu vas mourir, mais j'aimerais avoir mon héritage tout de suite. » Je ne sais pas si vous l'embrasseriez sur la joie en disant « Je suis heureux de savoir ça, je suis content. » Ici, on n'a pas la réaction du père. Le père y a donné sa part d'héritage. Mais le cœur du père devait être triste. De voir que le fils n'aimait pas le père pour ce qu'il était, mais que le fils aimait le père pour ce qu'il avait. Aujourd'hui, le problème dans la classe moyenne, frères et sœurs, avec nos enfants, c'est justement la question d'argent. La classe moyenne, avant, on mourait, on avait suffisamment d'argent pour nous enterrer. Maintenant, on meurt, on a des maisons de 300 000, 400 000, 500 000. Êtes-vous certain que vos enfants vous aiment pour ce que vous êtes ou pour ce que vous allez leur apporter? Ça, c'est le dilemme qu'on a avec l'argent quand on meurt avec de l'argent. Il y a une dame que je visitais ici au home. Ses enfants l'ont visitée à toutes les semaines, jusqu'au moment où elle a signé qu'elle leur donnait la maison. Quand je suis allé la voir, elle me dit, ça fait 9 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Ses enfants, ils ne l'aimaient pas pour ce qu'elle était, ils l'aimaient pour ce qu'elle avait. Maintenant qu'elle n'avait plus rien, elle n'était plus intéressante à visiter. Frères et sœurs, on ne sait pas ce qui sommeille dans le cœur de nos enfants. On a une belle illustration ici avec le fils prodigue. Papa, je t'aime, mais pas pour ce que tu es, c'est pour ce que tu me rapportes. Et je ne peux pas attendre ce que tu vas me rapporter, je voudrais avoir ma part maintenant. Et tandis qu'il était encore, il revient, il se repent, il constate sa situation, il voit qu'il a mal fait, il reconnaît son péché, il revient à la maison. Et le texte nous dit, tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la à lui. Passez-lui une bague au doigt. » C'est l'alliance entre le père et le fils. « Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Il fait partie de la famille. Amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. » Nous allons faire un festin, nous réjouir. Quand mon fils qui était aussi était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Alors qu'il revenait à la maison, le fils aîné entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Apprenant la nouvelle, le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Le fils aîné, il a toujours été dans la maison du père. Il a toujours servi le père. Mais lui, il voulait être traité d'égal à égal. C'est un égaliste. Son père sortit pour le prier d'entrer, mais le fils répondit à son père, « C'est pas juste, papa. Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Il n'avait rien à se reprocher. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Le père aurait pu répondre, mais mon fils, tu ne me l'as jamais demandé. Et regardez ce qu'il va lui dire. Pardon. Et le fils continue, voilà que ce vaurien revient à la maison, que tu le traites comme un fils. Et tu le traites comme ton fils, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées. Pour lui, tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. Le frère aîné, remarquez dans l'histoire, il n'appelle plus son frère son frère. Le légaliste, il a déjà fait une croix dessus. Son frère, il a commis des péchés, il n'est plus digne d'être appelé son frère. Il dit à son père, ton fils, pas mon frère, ton fils. Les nouvelles devaient courir vite, hein, dans la région, pour savoir ce que le fils faisait. Hein. Faites-vous-en pas, hein, pour qu'il dise qu'il est allé voir des prostituées, ainsi de suite. Hein. Ça devait circuler, hein. Chers amis, le frère aîné pensait que la bénédiction que son jeune frère avait reçue de son père, ainsi que la fête qui lui avait été organisée, tout cela lui revenait de droit. Il l'avait tellement mérité. Il avait travaillé toute sa vie pour qu'on le fête. Il aurait voulu qu'on sue le veau gras pour lui. Il était tellement légaliste, il ne voyait que les défauts, les péchés de son frère, mais il ne s'était jamais examiné. Il dit, je n'ai jamais désobéi. C'est possible qu'il n'ait jamais désobéi. Mais il avait à cœur ses biens à lui. Et ce qui est insultant pour lui, c'est qu'il était convaincu depuis que le frère était parti que tout ce que le père avait, ça lui reviendrait de droit. Mais oh, oh surprise, le fils revient, le père lui pardonne. Est-ce que je vais devoir, est-ce que je vais devoir encore séparer l'héritage? Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que je possède est aussi à toi. Tu pouvais te servir. Tout était à ta disposition. Frères et sœurs, en tant qu'enfants du royaume de Dieu, on n'a qu'à se servir. Toutes les promesses sont à notre disposition. Et quand il y a un frère ou une sœur qui s'empare d'une promesse et qu'on voit la promesse se concrétiser dans sa vie, on crie, c'est pas juste, Seigneur, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Le Seigneur, il dit, les promesses, ils étaient à ta disposition, mon frère et ma sœur. Mais tu n'as jamais voulu t'en servir. C'est pas que ton frère et ta sœur sont plus parfaites que toi, mais ils ont pris au mot ma parole et ils se sont servis de ce que j'avais mis à leur disposition. Frères et sœurs, on perd énormément de bénédictions parce qu'on ne se sert pas, on ne va pas chercher. On ne s'appuie pas sur les promesses qui sont pour nous dans la parole. Et on vit une vie chrétienne. Comme quand on va regarder les battements du cœur, puis il y a juste une ligne droite qui apparaît à un moment donné. On vit une vie chrétienne à peu près comme, sans vie. Inerte, désintéressante, désintéressée. Et le diable brise à nous convaincre que Dieu nous aime moins que mon frère, que ma sœur. Le diable finit par nous convaincre qu'on le méritait plus que notre frère et que notre sœur. Mais Dieu ne traite pas les gens au mérite. Dieu traite les gens selon sa bonté. Et dans sa parole, il y a des promesses qui sont pour vous. Il y a des promesses qui sont pour moi. Ne soyez pas inquiets si quelqu'un reçoit plus que vous. Ne vous inquiétez pas si Dieu en apparence bénit quelqu'un plus que vous. Ne soyez pas légaliste parce que le légalisme est la racine de la jalousie et suscite de l'ingratitude qui amène à s'apitoyer sur soi et à faire naître de l'amertume et ensuite la vengeance. Pensez à Caïn. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Ne négociez rien avec Dieu. Vous serez beaucoup plus heureux si vous enlevez vos yeux sur vos frères et sœurs et si vous les gardez sur le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne vous décevra jamais. Et il sait ce qu'il veut vous donner, frères et sœurs. Il y en a beaucoup dans l'Église qui ont le syndrome du frère aîné, c'est-à-dire le syndrome légaliste. Combien de fois est-il arrivé dans l'Église que les membres étaient fâchés? Je vais prendre une gorgée d'eau avant de la dire, celle-là. Que les membres étaient fâchés lorsqu'ils entraient dans la salle de culte le dimanche parce qu'ils venaient de constater que quelqu'un en visite pour la première fois était assis sur leur chaise sur laquelle ils s'assoyaient depuis 35 ans. Moi, j'ai vécu ça dans certaines églises où je suis allé. Des gens, ils ont leur coussin. Ça, c'est la chaise. Ça fait 35 ans qu'ils sont assis dessus. Ils rentrent. Ils s'en vont s'asseoir ailleurs. Tu les vois tirer la tête pendant tout le culte. Quel dommage lorsque des gens réagissent ainsi dans l'Église. Qu'il est triste d'entendre quelqu'un dire « il y a assez de monde dans notre Église, il n'en faut pas plus. » Ils sont simplement en train de dire ceci. « J'ai tout ce qu'il faut pour être bien dans cette Église. Les autres peuvent bien aller en enfer. Ils n'avaient qu'à venir au monde dans une famille chrétienne. » Frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu bénit quelqu'un d'autre plus que vous qu'il vous aime moins. Lorsque nous arriverons au ciel, nous ne recevrons pas tous la même récompense. Certains même risquent de recevoir comme d'ailleurs une remise de jardin. Et je suis sérieux quand je dis ça. Jésus a dit, amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où il n'y a ni ver ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 20-21. Votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. Certains auront plus que d'autres, frères et sœurs. Amen. Vous allez visiter des frères et sœurs. C'est très facile de savoir là où sont leurs trésors, frères et sœurs. Vous essayez de parler de la parole, vous êtes incapable de rentrer dans la parole. Parce que c'est pas son trésor, ça fait pas partie de ses richesses. Vous parlez de foot, ah, là vous êtes plus capable de les arrêter. Vous savez où est leur trésor, vous savez où se trouve la richesse. Je ne suis pas là pour accuser ni juger. Je vous dis simplement ce que Jésus dit. Hein? Tu vis en fonction de ce que tu aimes le plus. Hein? Tu ne perds pas ton temps avec ce qui ne t'intéresse pas, mais tu vas vivre à fond avec ce que tu aimes le plus. Hein? Et une prédication de 40 minutes, ça peut te faire suer, tu peux trouver ça très long, parce que tu n'aimes pas l'Église. Mais tu pourrais écouter deux matchs de foot pendant la Coupe du Monde en ligne et tu ne seras même pas fatigué. Les deux matchs seraient terminés, tu dirais, « Ah non, pas déjà. » Là où est ton cœur, là où c'est ton trésor, dit Jésus. Le but, ce n'est pas de vous condamner personne. Le but, c'est simplement de dire, « Où est ton trésor le matin? Quelles sont tes priorités dans ta vie, mon frère, ma sœur? » Parce que Dieu est riche en miséricorde. Il est riche en bénédiction. Il est riche en bonté. Mais il veut occuper la première place dans ta vie. Est-ce qu'il occupe la première place dans ta vie ce matin? Si ce n'est pas le cas, confesse ton péché là où tu te trouves, confesse-le. Dis, Seigneur, je te demande pardon, je suis un hypocrite, je viens dimanche, jour religieux, je ne vis rien avec toi parce que tu n'occupes pas la première place. Je me dispute avant de rentrer avec ma femme, je me suis pour réconcilier, mais je te demande pardon, moi tout seul, puis je peux pour prendre la Sainte Seine, pour pas que les regards soient portés sur moi, mais je suis pas en règle avec ma femme. Mais les gens ne le savent pas. Non, mais Dieu le sait, lui. Hey! Est-ce qu'on joue aux religieux ou si on est... On dit, Seigneur, moi, je veux pas être un hypocrite comme les pharisiens. Moi, Seigneur, ça me tente pas de venir à l'Église. Je viens quand même parce que je suis convaincu que tu m'as donné rendez-vous et que tu as quelque chose à me dire ce matin. Tu veux bouleverser ma vie, Seigneur. Tu veux me transformer. Et Seigneur, viens briser la forteresse qui est en moi. Viens abattre cette forteresse qui m'empêche de t'aimer comme je dois t'aimer. Qui m'empêche de vivre la vie chrétienne comme tu me dis de la vivre, cette vie chrétienne. Avant de terminer ce message, il est bon de se poser la question au sujet de ceux qui sont sauvés et qui vivent aujourd'hui même la 11e heure. C'est-à-dire qui sont rendus à un âge plus ou moins avancé, qui ont servi le Seigneur pendant une grande partie de leur vie. Continuez à servir le Seigneur pendant une grande partie... Continuez à servir le Seigneur, pardon, de tout votre cœur, afin que Dieu continue à vous utiliser, à se glorifier à travers vous. Frères et sœurs, rappelez-vous, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge. C'est une question de communion avec le Seigneur. Il n'y a pas d'âge. Je peux connaître la parole de Dieu par cœur et être inutilisable pour le royaume de Dieu parce que je regarde en arrière. Je suis encore accroché aux choses du monde, mais je connais la parole par cœur. Frères et sœurs, les pharisiens connaissaient la loi sur leur bout de leurs doigts. Ils avaient rajouté en plus des préceptes. Ils étaient inutilisables au royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Obéissez à ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Peut-être que vous n'êtes pas sauvé, que c'est la 11e heure pour vous et que vous vous dites, vous savez, j'ai vécu d'une manière qui n'est pas vraiment édifiante. Je suppose que je devrais mourir, je suppose que je vais mourir et que je n'entrerai pas au ciel. Si c'est votre cas, il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 2. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Il est possible que Dieu vous appelle à recevoir Jésus ce matin. Peut-être que ce matin, pour la première fois, vous avez clairement compris que Dieu veut sauver quiconque veut bien recevoir Jésus-Christ. Il est toujours trop tôt pour quitter. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et ce n'est pas parce que vous êtes rendu à 50, 60, 70 ans que vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, même 80, même 90, que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est trop tard pour le connaître. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il s'agit simplement de dire, Seigneur, je te rends grâce malgré l'âge que j'ai, malgré ce que j'ai vécu, malgré que j'ai vécu éloigné de toi, je te rends grâce de m'accepter tel que je suis. Et je te demande pardon d'avoir refusé ce pardon que j'ai si longtemps, si souvent entendu. N'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que Dieu ne nous traite pas de façon équitable, mais qu'il soit bon? N'êtes-vous pas heureux de savoir qu'il veut faire miséricorde à quiconque le veut bien, et ce, peu importe à quelle période de notre vie? Nous ne voulons pas que Dieu nous traite comme nous le méritons, nous voulons qu'il nous accorde son pardon, et quiconque le désire va recevoir son pardon. Ça, c'est l'évangile de la grâce, frères et sœurs. Il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ, peu importe l'âge que nous avons. Amen. La onzième heure, c'est à la dernière minute. Et je termine en disant, je l'ai déjà dit à l'étude biblique, je vais le répéter pour ceux qui ne viennent pas à l'étude biblique. C'est celui qui m'avait amené au Seigneur, il me présente son père un jour qui était vraiment un évangéliste de cœur et qui avait les âmes à cœur et qui avait été visiter un malade dans un hôpital. Est-ce que je l'ai raconté au sermon ou juste... parce que en mon âge, des fois, ça arrive qu'on radote. Mais... Et il se promène dans l'allée de l'hôpital, et là, il marche dans les grandes allées de l'hôpital, il y a des chambres à gauche, il y a des chambres à droite, et là, il entend sangloter quelqu'un, la porte est ouverte, et il y a le monsieur qui est assis dans un fauteuil roulant, le dos contre le mur, le visage contre la porte qui est ouverte, et là, il voit sangloter, il se tourne, et il regarde, il n'y a pas d'infirmière dans le passage, il rentre, il va voir le monsieur, et il dit, « Vous souffrez, monsieur, vous voulez que j'appelle une infirmière? » Il dit, vous voulez que j'appelle une infirmière pour vous, tout ça? Alors le monsieur, il dit, non, je suis rendu à 98 ans. Il me reste quelques semaines à vivre et je réalise que je ne sais même pas où je vais aller quand je vais mourir. Frères et sœurs, 98 ans. Ça, c'est la date. Ça, c'est vraiment la 11e heure. Combien Dieu a eu pitié de cet homme, quoi. Il a proclamé l'Évangile et il a accepté le Seigneur et ce frère m'a dit qu'il était mort deux semaines après. Mais on ne se rend pas tous à la 11e heure, frères et sœurs. On peut mourir subitement, on peut mourir d'un infarct. Toutes sortes de moyens de mourir, on a le choix. Mais Dieu, dans sa bonté, veut sauver le plus grand nombre. Dieu, dans sa bonté, veut que nous nous repentions de nos péchés et que nous nous tournions vers lui. Et Dieu veut vous utiliser pour amener d'autres personnes à l'extérieur qui ne le connaissent pas à partager cet évangile. Et l'évangile, il est simple, l'évangile de la grâce. On est tous coupables parce qu'on a tous péché aux yeux de Dieu. On est tous condamnables. On est tous destinés à aller en enfer. Et l'enfer, ce n'est pas un lieu de plaisir. Il va y avoir des grincements dedans. Il va y avoir des souffrances terribles. On était tous destinés à aller là. Dieu ne nous devait rien. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Dieu ne nous devait rien. Il aurait pu dire qu'il se débrouille tout seul. Mais Dieu, dans son amour, et Dieu prouve qu'il nous aime, alors que nous étions encore tous pécheurs, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre prendre mon péché sur lui, afin que je reçoive la justice de Dieu. Il a déjà subi le jugement que je devais subir sur la croix. Il a déjà subi ce jugement qui m'attendait lorsque je devais comparaître devant Dieu. Et quand je comparais devant Dieu, Dieu ne me voit pas avec mes péchés. Il me voit à travers Jésus-Christ. Je suis purifié, je suis pardonné. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Et frères et sœurs, on n'est pas, aujourd'hui, on ne doit pas seulement dire qu'on croit en Jésus-Christ crucifié, on doit dire, je crois en Jésus-Christ ressuscité des morts. Les gens, frères et sœurs, avec la théorie de l'évolution, ils se comparent à des animaux, Ils pensent qu'après la mort, c'est terminé. On le voit quand on légalise l'euthanasie, c'est vraiment ça, hein? On pense que c'est terminé après la mort, mais on sait que ce n'est pas terminé parce que l'Évangile nous dit non, il y a une autre vie qui commence avec ou sans Dieu. Et on a besoin, les gens ont besoin d'entendre parler de la résurrection des morts. C'était le message des premiers chrétiens dans le livre des Actes. Nous croyons en la résurrection des morts, dit Paul dans le livre de Corinthiens. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, on est les plus à plaindre des hommes. Amen. Et Dieu veut vous utiliser, peu importe l'âge que vous avez. On va se lever, on va chanter un cantique. Allez, je vous invite à vous lever. On va inviter les musiciens à venir en avant.